20 000 lieues sous les mers, tome 2, chapitre 9, un continent disparu. Le lendemain matin, 19 février, je vis entrer le Canadien dans ma chambre. J'attendais sa visite. Il avait l'air très désappointé. « Eh bien, monsieur, me dit-il. Eh bien, Ned, le hasard s'est mis contre nous hier. » Oui, il a fallu que ce damné capitaine s'arrêtât précisément à l'heure où nous allions fuir son bateau. Oui, Ned, et il avait affaire chez son banquier.
Son banquier?
Ou plutôt sa maison de banque. J'entends par là cet océan où ses richesses sont plus en sûreté qu'elles ne le seraient dans les caisses d'un État. Je racontai alors au Canadien les incidents de la veille dans le secret espoir de le ramener à l'idée de ne point abandonner le capitaine. Mais mon récit n'eut d'autre résultat que le regret énergiquement exprimé par Ned de n'avoir pu faire, pour son compte, une promenade sur le champ de bataille de Vigo. « Enfin, dit-il, tout n'est pas fini. Ce n'est qu'un coup de harpon perdu. Une autre fois, nous réussirons, et dès ce soir, s'il le faut. »«
Quelle est la direction du Nautilus ?» demandai-je.
« Je l'ignore, » répondit Ned.
« Eh bien, à midi, nous verrons le point. »
Le Canadien retourna près de Conseil. Dès que je fus habillé, je passai dans le salon. Le compas n'était pas rassurant. La route du Nautilus était sud-sud-ouest. Nous tournions le dos à l'Europe. J'attendis avec une certaine impatience que le point fût reporté sur la carte. Vers 11h30, les réservoirs se vidèrent et notre appareil remonta à la surface de l'océan. Je m'élançai sur la plateforme. Ned Land m'y avait précédé. Plus de terres en vue, rien que la mer immense. Quelques voiles à l'horizon, de celles, sans doute, qui vont chercher jusqu'au cap San Roque les vents favorables pour doubler le cap de Bonne-Espérance. Le temps était couvert, un coup de vent se préparait. Ned, rageant, essayait de percer l'horizon brumeux. Il espérait encore que, derrière tout ce brouillard, s'étendait cette terre si désirée. À midi, le soleil se montra un instant. Le second profita de cette éclaircie pour prendre sa hauteur. Puis, la mer devenant plus houleuse, nous redescendîmes et le panneau fut refermé. Une heure après, lorsque je consultai la carte, je vis que la position du Nautilus était indiquée par 16°17' de longitude et 33°22' de latitude, à 150 lieues de la côte la plus rapprochée. Il n'y avait pas moyen de songer à fuir, et je laisse à penser quelles furent les colères du Canadien quand je lui fis connaître notre situation. Pour mon compte, je ne me désolai pas outre mesure. Je me sentis comme soulagé du poids qui m'oppressait, et je pus reprendre avec une sorte de calme relatif mes travaux habituels. Le soir, vers 11h, je reçus la visite très inattendue du capitaine Nemo. Il me demanda fort gracieusement si je me sentais fatigué d'avoir veillé la nuit précédente. Je répondis négativement. « Alors, monsieur Aronnax, je vous proposerai une curieuse excursion. »«
Proposez, capitaine. »«
Vous n'avez encore visité les fonds sous-marins que le jour et sous la clarté du soleil. Vous conviendrait-il de les voir par une nuit obscure ?»
« Très volontiers.
Cette promenade sera fatigante, je vous en préviens. Il faudra marcher longtemps et gravir une montagne. Les chemins n'en sont pas très bien entretenus.
Ce que vous me dites là, capitaine, redouble ma curiosité. Je suis prêt à vous suivre.
Venez donc, monsieur le professeur, nous allons revêtir nos scaphandres. » Arrivé au vestiaire, je vis que ni mes compagnons ni aucun homme de l'équipage ne devait nous suivre pendant cette excursion. Le capitaine Nemo ne m'avait pas même proposé d'emmener Ned et Conseil. En quelques instants, nous eûmes revêtu nos appareils. On plaça sur notre dos les réservoirs abondamment chargés, mais les lampes électriques n'étaient pas préparées. Je le fis observer au capitaine. « Elles nous seraient inutiles, répondit-il. » Je crus avoir mal entendu, mais je ne pus réitérer mon observation, car la tête du capitaine avait déjà disparu dans son enveloppe métallique. J'achevai de me harnacher, Je sentis qu'on me plaçait dans la main un bâton ferré, et quelques minutes plus tard, après la manœuvre habituelle, nous prenions pied sur le fond de l'Atlantique à une profondeur de 300 mètres. Minuit approchait. Les eaux étaient profondément obscures, mais le capitaine Nemo me montra, dans le lointain, un point rougeâtre, une sorte de large lueur, qui brillait à 2 miles environ du Nautilus. Ce qu'était ce feu? Quelle matière l'alimentait? Pourquoi et comment il se revivifiait dans la masse liquide? Je n'aurais pu le dire. En tout cas, il nous éclairait vaguement, il est vrai, mais je m'accoutumai bientôt à ces ténèbres particulières, et je compris, dans cette circonstance, l'inutilité des appareils Ruhmkorff. Le capitaine Nemo et moi, nous marchions l'un près de l'autre, directement sur le feu signalé. Le sol plat montait insensiblement. Nous faisions de larges enjambées, nous aidant du bâton, mais notre marche était lente, en somme, car nos pieds s'enfonçaient souvent dans une sorte de vase pétri avec des algues et semé de pierres plates. Ces amoncellements pierreux étaient disposés sur le fond océanique, suivant une certaine régularité que je ne m'expliquais pas. J'apercevais de gigantesques sillons qui se perdaient dans l'obscurité lointaine et dont la longueur échappait à toute évaluation. D'autres particularités se présentaient aussi que je ne savais admettre. Il me semblait que mes lourdes semelles de plomb écrasaient une litière d'ossements qui craquait avec un bruit sec. Qu'était donc cette vaste plaine que je parcourais ainsi? J'aurais voulu interroger le capitaine, mais son langage par signe, qui lui permettait de causer avec ses compagnons, lorsqu'il le suivait dans ses excursions sous-marines, était encore incompréhensible pour moi. Cependant, la clarté rougeâtre qui nous guidait s'accroissait et enflammait l'horizon. La présence de ce foyer sous les eaux m'intriguait au plus haut degré. Était-ce quelque effluescence électrique qui se manifestait? Allais-je vers un phénomène naturel encore inconnu des savants de la Terre? Ou même, car cette pensée traversa mon cerveau, la main de l'homme intervenait-elle dans cet embrasement? Soufflait-elle cet incendie? Devais-je rencontrer, sous ces couches profondes, des compagnons, des amis du capitaine Nemo, vivant comme lui de cette existence étrange et auxquels il allait rendre visite? Rencontrerais-je là-bas toute une colonie d'exilés qui, lasse des misères de la terre, avait cherché et trouvé l'indépendance au plus profond de l'océan? Toutes ces idées folles, inadmissibles, me poursuivaient, et dans cette disposition d'esprit, surexcité sans cesse par les séries de merveilles qui passaient sous mes yeux, je n'aurais pas été surpris de découvrir, au fond de cette mer, une de ces villes sous-marines que rêvait le capitaine Nemo. Notre route s'éclairait de plus en plus. La lueur blanchissante rayonnait au sommet d'une montagne haute de 800 pieds environ. Mais ce que j'apercevais n'était qu'une simple réverbération développée par le cristal des couches d'eau. Le foyer, source de cette inexplicable clarté, occupait le versant opposé de la montagne. Au milieu des dédales pierreux qui sillonnaient le fond de l'Atlantique, le capitaine Nemo s'avançait sans hésitation. Il connaissait cette sombre route. Il l'avait souvent parcourue, sans doute, et ne pouvait s'y perdre. Je le suivais avec une confiance inébranlable. Il m'apparaissait comme un des génies de la mer, et, quand il marchait devant moi, j'admirais sa haute stature qui se découpait en noir sur le fond lumineux de l'horizon. Il était 1 heure du matin. Nous étions arrivés aux premières rampes de la montagne. Mais, pour les aborder, il fallut s'aventurer par les sentiers difficiles d'un vaste taillis. Oui, un taillis d'arbres morts, sans feuilles, sans sève, arbres minéralisés sous l'action des eaux, et que dominaient çà et là des pins gigantesques. C'était comme une houillère encore debout, tenant par ses racines au sol effondré, et dont la ramure, à la manière des fines découpures de papier noir, se dessinait nettement sur le plafond des eaux. que l'on se figure une forêt du Harz accrochée au flanc d'une montagne, mais une forêt engloutie. Les sentiers étaient encombrés d'algues et de fucus, entre lesquels grouillait un monde de crustacés. J'allais, gravissant les rocs, enjambant les troncs étendus, brisant les lianes de mer qui se balançaient d'un arbre à l'autre, effarouchant les poissons qui volaient de branche en branche. Entraîné, je ne sentais plus la fatigue. Je suivais mon guide qui ne se fatiguait pas. Quel spectacle ! Comment le rendre ? Comment peindre l'aspect de ces bois et de ces rochers dans ce milieu liquide ? Leurs dessous sombres et farouches, leurs dessus colorés de tons rouges sous cette clarté que doublait la puissance réverbérante des eaux. Nous gravissions des rocs qui s'éboulaient, ensuite, par pans énormes, avec un sourd grondement d'avalanche. À droite, à gauche, se creusaient de vastes clairières que la main de l'homme semblait avoir dégagées, et je me demandais parfois si quelque habitant de ces régions sous-marines n'allait pas tout à coup m'apparaître. Mais le capitaine Nemo montait toujours. Je ne voulais pas rester en arrière, je le suivais hardiment. Mon bâton me prêtait 1000 secours. Un faux pas eût été dangereux sur ces étroites passes évidées au flanc des gouffres, mais j'y marchais d'un pied ferme et sans ressentir l'ivresse du vertige. Tantôt je sautais une crevasse dont la profondeur m'eût fait reculer au milieu des glaciers de la terre. Tantôt je m'aventurais sur le tronc vacillant des arbres jetés d'un abîme à l'autre, sans regarder sous mes pieds, n'ayant des yeux que pour admirer les sites sauvages de cette région. Là, des rocs monumentaux, penchant sur leurs bases irrégulièrement découpées, semblaient défier les lois de l'équilibre. Entre leurs genoux de pierre, des arbres poussaient comme un jet sous une pression formidable, et soutenaient ceux qui les soutenaient eux-mêmes. Puis des tours naturelles, de larges pans taillés à pic comme des courtines, s'inclinaient sous un angle que les lois de la gravitation n'eussent pas autorisé à la surface des régions terrestres. Et moi-même, ne sentais-je pas cette différence due à la puissante densité de l'eau, quand, malgré mes lourds vêtements, ma tête de cuivre, mes semelles de métal, je m'élevais sur des pentes d'une impraticable raideur, les franchissant pour ainsi dire avec la légèreté d'un isard ou d'un chamois. 2 heures après avoir quitté le Nautilus, nous avions franchi la ligne des arbres, et à 100 pieds au-dessus de nos têtes se dressait le pic de la montagne, dont la projection faisait ombre sur l'éclatante iridiation du versant opposé. Quelques arbrisseaux pétrifiés couraient çà et là en zigzag menaçant. Les poissons se levaient en masse sous nos pas comme des oiseaux surpris dans les hautes herbes. La masse rocheuse était creusée d'impénétrables anfractuosités, de grottes profondes, d'insondables trous, au fond desquels j'entendais remuer des choses formidables. Le sang me refluait jusqu'au cœur quand j'apercevais une antenne énorme qui me barrait la route, ou quelques pinces effrayantes se refermant avec bruit dans l'ombre des cavités. Des milliers de points lumineux brillaient au milieu des ténèbres. C'étaient les yeux des crustacés gigantesques, tapis dans leur tanière, des homards se redressant comme des hallebardiers et remuant leurs pattes avec un cliquetis de ferraille, des crabes titanesques braqués comme des canons sur leurs affûts, et des poulpes effroyables entrelaçant leurs tentacules, broussailles vivantes de serpents. Quel était ce monde exorbitant que je ne connaissais pas encore? À quel ordre appartenaient ces articulés auxquels le roc formait comme une seconde carapace? Où la nature avait-elle trouvé le secret de leur existence végétative? Et depuis combien de siècles vivaient-ils ainsi dans les dernières couches de l'océan? Mais je ne pouvais m'arrêter. Le capitaine Nemo, familiarisé avec ces terribles animaux, n'y prenait plus garde. Nous étions arrivés à un premier plateau, où d'autres surprises m'attendaient encore. Là se dessinaient de pittoresques ruines qui trahissaient la main de l'homme, et non plus celle du Créateur. C'étaient de vastes amoncellements de pierres, où l'on distinguait de vagues formes de châteaux, de temples, revêtus d'un monde de zoophytes en fleurs, et auquel, au lieu de lierre, les algues et les fucus faisaient un épais manteau végétal. Mais qu'était donc cette portion du globe engloutie par les cataclysmes, qui avait disposé ses roches et ses pierres comme des dolmens des temps préhistoriques? Où étais-je? Où m'avait entraîné la fantaisie du capitaine Nemo? J'aurais voulu l'interroger. Ne le pouvant, je l'arrêtai. Je saisis son bras, mais lui, secouant la tête et me montrant le dernier sommet de la montagne, sembla me dire « Viens, viens encore, viens toujours !» Je le suivis dans un dernier élan, et en quelques minutes je gravis le pic qui dominait d'une dizaine de mètres toutes ces deux masses rocheuses. Je regardai cette pente que nous venions de franchir. La montagne ne s'élevait que de 700 à 800 pieds au-dessus de la plaine, mais de son versant opposé, elle dominait d'une hauteur double le fond en contrebas de cette portion de l'Atlantique. Mes regards s'étendaient au loin et embrassaient un vaste espace éclairé par une fulguration violente. En effet, c'était un volcan que cette montagne. À 50 pieds au-dessus du pic, au milieu d'une pluie de pierres et de scories, un large cratère vomissait des torrents de lave qui se dispersaient en cascades de feu au sein de la masse liquide. Ainsi posé, ce volcan, comme un immense flambeau, éclairait la plaine intérieure jusqu'aux dernières limites de l'horizon. J'ai dit que le cratère sous-marin rejetait des laves, mais non des flammes. Il faut aux flammes l'oxygène de l'air, et elles ne sauraient se développer sous les eaux. Mais des coulées de lave, qui ont en elles le principe de leur incandescence, peuvent se porter au rouge-blanc, lutter victorieusement contre l'élément liquide, et se vaporiser à son contact. De rapides courants entraînaient tous ces gaz en diffusion, et les torrents laviques glissaient jusqu'au bas de la montagne, comme les déjections du Vésuve sur un autre torré del Greco. En effet, là, sous mes yeux, ruinée, abîmée, jetée bas, apparaissait une ville détruite, ses toits effondrés, ses temples abattus, ses arcs disloqués, ses colonnes gisant à terre où l'on sentait encore les solides proportions d'une sorte d'architecture toscane. Plus loin, quelques restes d'un gigantesque aqueduc. Ici, l'exhaussement empâté d'une acropole avec les formes flottantes d'un Parthénon. Là, des vestiges de quais, comme si quelque antique port eût abrité jadis sur les bords d'un océan disparu les vaisseaux marchands et les trirèmes de guerre. Plus loin encore, de longues lignes de murailles écroulées, de larges rues désertes, toute une Pompéi enfouie sous les eaux que le capitaine Nemo ressuscitait à mes regards. Où étais-je? Où étais-je? Je voulais le savoir à tout prix. Je voulais parler, je voulais arracher la sphère de cuivre qui emprisonnait ma tête. Mais le capitaine Nemo vint à moi et m'arrêta d'un geste. Puis, ramassant un morceau de pierre crayeuse, il s'avança vers un roc de basalte noir et traça ce seul mot « Atlantide ». Quel éclair traversa mon esprit. L'Atlantide, l'ancienne Méropide de Théopompe, l'Atlantide de Platon. Ce continent nié par Origène, Porphyre, Jamblique, Danville, Maltebrun, Humboldt qui mettait sa disparition au compte des récits légendaires, admis par Posidonius, Pline, Ammien, Marcellin, Engels, Scherer, Tournefort, Buffon, Davzac, je l'avais là sous les yeux, portant encore les irrécusables témoignages de sa catastrophe. C'était donc cette région engloutie qui existait en dehors de l'Europe, de l'Asie, de la Libye, au-delà des colonnes d'Hercule, où vivait ce peuple puissant des Atlantes, contre lequel se firent les premières guerres de l'ancienne Grèce. L'historien qui a consigné dans ses récits les hauts faits de ces temps héroïques, c'est Platon lui-même. Son dialogue de Timée et de Critias a été, pour ainsi dire, tracé sous l'inspiration de Solon, poète et législateur. Un jour, Solon s'entretenait avec quelques sages vieillards de Saïs, ville déjà vieille de 800 ans, ainsi que le témoignaient ses annales gravées sur le mur sacré de ses temples. L'un de ces vieillards raconta l'histoire d'une autre ville plus ancienne de 1000 ans. cette première cité athénienne, âgée de 900 siècles, avait été envahie et en partie détruite par les Atlantes. Ces Atlantes, disait-il, occupaient un continent immense, plus grand que l'Afrique et l'Asie réunies, qui couvrait une surface comprise du 12e degré de latitude au 40e degré nord. Leur domination s'étendait même en Égypte. Ils voulurent l'imposer jusqu'en Grèce, mais ils durent se retirer devant l'indomptable résistance des Hellènes. Des siècles s'écoulèrent. Un cataclysme se produisit, inondations, tremblements de terre. Une nuit et un jour suffirent à l'anéantissement de cette Atlantide, dont les plus beaux sommets, Madère, les Açores, les Canaries, les îles du Cap-Vert, émergent encore. Tels étaient ces souvenirs historiques que l'inscription du capitaine Nemo faisait palpiter dans mon esprit. Ainsi donc, conduit par la plus étrange destinée, je foulais du pied l'une des montagnes de ce continent. Je touchais de la main ces ruines mille fois séculaires et contemporaines des époques géologiques. Je marchais là même où avaient marché les contemporains du premier homme. J'écrasais sous mes lourdes semelles ces squelettes d'animaux des temps fabuleux que ces arbres maintenant minéralisés couvraient autrefois de leur ombre. Ah, pourquoi le temps me manquait-il? J'aurais voulu descendre les pentes abruptes de cette montagne, parcourir en entier ce continent immense qui sans doute reliait l'Afrique à l'Amérique, et visiter ces grandes cités antédiluviennes. Là, peut-être, sous mes regards, s'étendaient Makimos, la guerrière, Eusébès, la pieuse, dont les gigantesques habitants vivaient des siècles entiers, et auxquels la force ne manquait pas pour entasser ces blocs énormes qui résistaient encore à l'action des eaux. Un jour, peut-être, quelque phénomène éruptif les ramènera à la surface des flots, ces ruines englouties. On a signalé de nombreux volcans sous-marins dans cette portion de l'océan, et bien des navires ont senti des secousses extraordinaires en passant sur ces fonds tourmentés. Les uns ont entendu des bruits sourds qui annonçaient la lutte profonde des éléments. Les autres ont recueilli des cendres volcaniques projetées hors de la mer. Tout ce sol, jusqu'à l'équateur, est encore travaillé par les forces plutoniennes. Et qui sait si, dans une époque éloignée, accrue par les déjections volcaniques et par les couches successives de lave, des sommets de montagnes ignivomes n'apparaîtront pas à la surface de l'Atlantique. Pendant que je rêvais ainsi, tandis que je cherchais à fixer, dans mon souvenir, tous les détails de ce paysage grandiose, le capitaine Nemo, accoudé à une stèle moussue, demeurait immobile et comme pétrifié dans une muette extase. Songeait-il à ces générations disparues et leur demandait-il le secret de la destinée humaine? Était-ce à cette place que cet homme étrange venait se retremper dans les souvenirs de l'histoire et revivre de cette vie antique, lui qui ne voulait pas de la vie moderne? Que n'aurais-je donné pour connaître ses pensées, pour les partager, pour les comprendre? Nous restâmes à cette place pendant une heure entière, contemplant la vaste plaine sous l'éclat des laves qui prenaient, parfois, une intensité surprenante. Les bouillonnements intérieurs faisaient courir de rapides frissonnements sur l'écorce de la montagne. Des bruits profonds, nettement transmis par ce milieu liquide, se répercutaient avec une majestueuse ampleur. À ce moment, la lune apparut à travers la masse des eaux et jeta quelques pâles rayons sur le continent englouti. Ce ne fut qu'une lueur, mais d'un indescriptible effet. Le capitaine se leva, jeta un dernier regard à cette immense plaine. Puis, de la main, il me fit signe de le suivre. Nous descendîmes rapidement la montagne. La forêt minérale une fois dépassée, j'aperçus le fanal du Nautilus qui brillait comme une étoile. Le capitaine marcha vers lui, et nous étions rentrés à bord au moment où les premières teintes de l'aube blanchissaient la surface de l'océan.
Chapitre 10. Les houilles sous-marines. Le lendemain, 20 février, je me réveillai fort tard. Les fatigues de la nuit avaient prolongé mon sommeil jusqu'à 11 heures. Je m'habillai promptement.
J'avais hâte de connaître la direction du Nautilus. Les instruments m'indiquèrent qu'il courait toujours vers le sud, avec une vitesse de 20 miles à l'heure, par une profondeur de 100 mètres. Conseil entra. Je lui racontai notre excursion nocturne, et les panneaux étant ouverts, il put encore entrevoir une partie de ce continent submergé. En effet, le Nautilus rasait, à 10 mètres du sol seulement, la plaine de l'Atlantide. Admirable et charmante navigation, qui rappelait les manœuvres d'une promenade aérostatique, avec cette différence toutefois que le Nautilus obéissait passivement à la main de son timonier. Vers 4 heures du soir, le terrain, généralement composé d'une vase épaisse et entremêlée de branches minéralisées, se modifia peu à peu. Il devint plus rocailleux et parut semé de conglomérats, de tufs basaltiques, avec quelques semis de lave et d'obsidiennes sulfureuses. Je pensais que la région des montagnes allait bientôt succéder aux longues plaines, et, en effet, dans certaines évolutions du Nautilus, j'aperçus l'horizon méridional barré par une haute muraille qui semblait fermer toute issue. Son sommet dépassait évidemment le niveau de l'océan. Ce devait être un continent, ou tout au moins une île, soit une des Canaries, soit une des îles du Cap-Vert. Le point n'ayant pas été fait, à dessein peut-être, j'ignorais notre position. En tout cas, une telle muraille me parut marquer la fin de cette Atlantide, dont nous n'avions parcouru en somme qu'une minime portion. La nuit n'interrompit pas mes observations. J'étais resté seul. Conseil avait regagné sa cabine. Le Nautilus, ralentissant son allure, voltigeait au-dessus des masses confuses du sol, tantôt les effleurant comme s'il eût voulu s'y poser, tantôt remontant capricieusement à la surface des flots. J'entrevoyais alors quelques vives constellations à travers le cristal des eaux, et précisément 5 ou 6 de ces étoiles zodiacales qui traînent à la queue d'Orion. Longtemps encore, je serais resté à ma vitre, admirant les beautés de la mer et du ciel, quand les panneaux se refermèrent. À ce moment, le Nautilus était arrivé à l'aplomb de la haute muraille. Comment manœuvrerait-il? Je ne pouvais le deviner. Je regagnai ma chambre. Le Nautilus ne bougeait plus. Je m'endormis avec la ferme intention de me réveiller après quelques heures de sommeil. Mais le lendemain, il était 8 heures lorsque je revins au salon. Je regardai le manomètre. Il m'apprit que le Nautilus flottait à la surface de l'océan. J'entendais d'ailleurs un bruit de pas sur la plateforme. Cependant, aucun roulis ne trahissait l'ondulation des lames supérieures. Je montai jusqu'au panneau. Il était ouvert. Mais au lieu du grand jour que j'attendais, je me vis environné d'une obscurité profonde. Où étions-nous? M'étais-je trompé? Faisait-il encore nuit? Non. Pas une étoile ne brillait et la nuit n'a point de ces ténèbres absolues. Je ne savais que penser quand une voix me dit « C'est vous, monsieur le professeur ?»« Ah, capitaine Nemo, répondis-je, où sommes-nous » ?»« Sous terre, monsieur le professeur. » »« Sous terre, m'écriai-je, et le Nautilus flotte encore ?» Il flotte toujours. Mais je ne comprends pas. Attendez quelques instants. Notre fanal va s'allumer, et si vous aimez les situations claires, vous serez satisfait. Je mis le pied sur la plateforme et j'attendis. L'obscurité était si complète que je ne percevais même pas le capitaine Nemo. Cependant, en regardant au zénith, exactement au-dessus de ma tête, je crus saisir une lueur indécise, une sorte de demi-jour qui emplissait un trou circulaire. À ce moment, le fanal s'alluma soudain, et son vif éclat fit évanouir cette vague lumière. Je regardai, après avoir un instant fermé mes yeux éblouis par le jet électrique. Le Nautilus était stationnaire. Il flottait auprès d'une berge, disposée comme un quai. Cette mer, qui le supportait en ce moment, C'était un lac emprisonné dans un cirque de murailles qui mesurait 2 000 de diamètre, soit 6 000 de tour. Son niveau, le manomètre l'indiquait, ne pouvait être que le niveau extérieur, car une communication existait nécessairement entre ce lac et la mer. Les hautes parois, inclinées sur leur base, s'arrondissaient en voûte et figuraient un immense entonnoir retourné, dont la hauteur comptait 500 ou 600 mètres. Au sommet, s'ouvrait un orifice circulaire par lequel j'avais surpris cette légère clarté, évidemment due au rayonnement diurne. Avant d'examiner plus attentivement les dispositions intérieures de cette énorme caverne, avant de me demander si c'était là l'ouvrage de la nature ou de l'homme, j'allai vers le capitaine Nemo. « Où sommes-nous » dis-je. « Au centre même d'un volcan éteint, » me répondit le capitaine. « Un volcan dont la mer a envahi l'intérieur à la suite de quelques convulsions du sol. Pendant que vous dormiez, monsieur le professeur, le Nautilus a pénétré dans ce lagon par un canal naturel, ouvert à 10 mètres au-dessous de la surface de l'océan. C'est ici son port d'attache, un port sûr, commode, mystérieux, abrité de tous les rhombes et du vent. Trouvez-moi sur les côtes de vos continents ou de vos îles une rade qui vaille ce refuge assuré contre la fureur des ouragans. En effet, répondis-je, ici vous êtes en sûreté, capitaine Nemo. Qui pourrait vous atteindre au centre d'un volcan? Mais à son sommet, n'ai-je pas aperçu une ouverture? Oui, son cratère, un cratère empli jadis de lave, de vapeurs et de flammes, et qui, maintenant, donne passage à cet air vivifiant que nous respirons. Mais quelle est donc cette montagne volcanique, demandai-je? Elle appartient à un des nombreux îlots dont cette mer est semée. Simple écueil pour les navires, pour nous, caverne immense. Le hasard me l'a fait découvrir, et en cela, le hasard m'a bien servi. Mais ne pourrait-on descendre par cet orifice qui forme le cratère du volcan? Non, monsieur le professeur, jusqu'à une centaine de pieds, la base intérieure de cette montagne est praticable. Mais au-dessus, les parois surplombent, et leur rampe ne pourrait être franchie. Je vois, capitaine, que la nature vous sert partout et toujours. Vous êtes en sûreté sur ce lac, et nul que vous n'en peut visiter les eaux. Mais à quoi bon ce refuge? Le Nautilus n'a pas besoin de port. Non, monsieur le professeur, mais il a besoin d'électricité pour se mouvoir, d'éléments pour produire son électricité, de sodium pour alimenter ses éléments, de charbon pour faire son sodium, et de houillère pour extraire son charbon. Or, précisément ici, la mer recouvre des forêts entières qui furent enlisées dans les temps géologiques. Minéralisées maintenant et transformées en houille, elles sont pour moi une mine inépuisable. Vos hommes, capitaine, font donc ici le métier de mineur? Précisément. Ces mines s'étendent sous les flots comme les houillères de Newcastle. C'est ici que, revêtus du scaphandre, le pic et la pioche à la main, mes hommes vont extraire cette houille que je n'ai pas même demandé aux mines des continents. Lorsque je brûle ce combustible pour la fabrication du sodium, la fumée qui s'échappe par le cratère de cette montagne lui donne encore l'apparence d'un volcan en activité. Et nous les verrons à l'œuvre, vos compagnons? Non, pas cette fois, du moins, car je suis pressé de continuer notre tour du monde sous-marin. Aussi, me contenterai-je de puiser aux réserves de sodium que je possède. Le temps de les embarquer, c'est-à-dire un jour seulement, et nous reprendrons notre voyage. Si donc vous voulez parcourir cette caverne et faire le tour du lagon, profitez de cette journée, monsieur Aronnax. Je remerciai le capitaine et j'allai chercher mes deux compagnons qui n'avaient pas encore quitté leur cabine. Je les invitai à me suivre sans leur dire où ils se trouvaient. Ils montèrent sur la plateforme. Conseil, qui ne s'étonnait de rien, regarda comme une chose très naturelle de se réveiller sous une montagne après s'être endormi sous les flots. Mais Ned Land n'eut d'autre idée que de chercher si la caverne présentait quelque issue. Après déjeuner, vers 10 heures, nous descendions sur la berge.
Nous voici donc encore une fois à terre, dit Conseil.
Je n'appelle pas cela la terre, répondit le Canadien. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas dessus, mais dessous.
Entre le pied des parois de la montagne et les eaux du lac, se développait un rivage sablonneux qui, dans sa plus grande largeur, mesurait 500 pieds. Sur cette grève, on pouvait faire aisément le tour du lac. Mais la base des hautes parois formait un sol tourmenté, sur lequel gisaient, dans un pittoresque entassement, des blocs volcaniques et d'énormes pierres ponces. Toutes ces masses désagrégées, recouvertes d'un émail poli sous l'action des feux souterrains, resplendissaient au contact des jets électriques du fanal. La poussière minacée du rivage que soulevaient nos pas s'envolait comme une nuée d'étincelles. Le sol s'élevait sensiblement en s'éloignant du relais des flots, et nous fûmes bientôt arrivés à des rampes longues et sinueuses, véritables raidillons qui permettaient de s'élever peu à peu. Mais il fallait marcher prudemment au milieu de ces conglomérats, qu'aucun ciment ne reliait entre eux, et le pied glissait sur ces trachytes vitreux, faits de cristaux de feldspath et de quartz. La nature volcanique de cette énorme excavation s'affirmait de toutes parts. Je le fis observer à mes compagnons. Vous figurez-vous, leur demandai-je, ce que devait être cet entonnoir lorsqu'il s'emplissait de lave bouillante et que le niveau de ce liquide incandescent s'élevait jusqu'à l'orifice de la montagne comme la fonte sur les parois d'un fourneau?
Je me le figure parfaitement, répondit Conseil, mais monsieur me dira-t-il pourquoi le grand fondeur a suspendu son opération et comment il se fait que la fournaise soit remplacée par les eaux tranquilles d'un lac?
Très probablement, Conseil, parce que quelque convulsion a produit au-dessous de la surface de l'océan cette ouverture qui a servi de passage au Nautilus. Alors les eaux de l'Atlantique se sont précipitées à l'intérieur de la montagne. Il y a eu lutte terrible entre les deux éléments, lutte qui s'est terminée à l'avantage de Neptune. Mais bien des siècles se sont écoulés depuis lors, et le volcan submergé s'est changé en grotte paisible.
Très bien, répondit Ned Land. J'accepte l'explication, et je regrette, dans notre intérêt, que cette ouverture dont parle monsieur le professeur ne soit pas produite au-dessus du niveau de la mer.
Mais, ami Ned, répliqua Conseil, si ce passage n'eût pas été sous-marin, le Nautilus n'aurait pu y pénétrer.
Et j'ajouterai, maître Land, que les eaux ne se seraient pas précipitées sous la montagne, et que le volcan serait resté volcan, donc vos regrets sont superflus. Nous étions arrivés au pied d'un bouquet de dragonniers robustes, quand Ned Land s'écria « Ah, monsieur, une ruche !»«
Une ruche ?» répliquai-je en faisant un geste de parfaite incrédulité.
« Oui, une ruche, » répéta le Canadien, « et des abeilles qui bourdonnent autour. »
Je m'approchai et je dus me rendre à l'évidence. Il y avait là, à l'orifice d'un trou creusé dans le tronc d'un dragonnier, quelques milliers de ces ingénieux insectes, si communs dans toutes les Canaries, et dont les produits sont particulièrement estimés. Tout naturellement, le Canadien voulut faire sa provision de miel, et j'aurais eu mauvaise grâce à m'y opposer. Une certaine quantité de feuilles sèches mélangées de soufre s'allumèrent sous l'étincelle de son briquet, et il commença à enfumer les abeilles.
Les bourdonnements cessèrent peu à peu, et la ruche éventrée livra plusieurs livres d'un miel parfumé.
Ned Land en remplit son havresac. Quand j'aurai mélangé ce miel avec la pâte de l'Arctocarpus, me dit-il, je serai en mesure de vous offrir un gâteau succulent.
Parbleu, fit Conseil, ce sera du pain d'épices.
Va pour le pain d'épices, dis-je, mais reprenons cette intéressante promenade. À certains détours du sentier que nous suivions alors, le lac apparaissait dans toute son étendue. Le fanal éclairait en entier sa surface paisible, qui ne connaissait ni les rides ni les ondulations. Le Nautilus gardait une immobilité parfaite. Sur sa plateforme et sur la berge s'agitaient les hommes de son équipage, ombres noires nettement découpées au milieu de cette lumineuse atmosphère. À ce moment, nous contournions la crête élevée de ces premiers plans de roche que soutenait la voûte. Je vis alors que les abeilles n'étaient pas les seuls représentants du règne animal à l'intérieur de ce volcan. Des oiseaux de proie planaient et tournoyaient çà et là dans l'ombre, ou s'enfuyaient de leurs nids perchés sur des pointes de roc. C'étaient des éperviers au ventre blanc et décressaient le criarde. Sur les pentes, détalaient aussi de toute la rapidité de leurs échasses de belles et grasses outardes. Je laisse à penser si la convoitise du Canadien fut allumée à la vue de ce gibier savoureux, et s'il regretta de ne pas avoir un fusil entre les mains. Il essaya de remplacer le plomb par les pierres, et après plusieurs essais infructueux, il parvint à blesser une de ces magnifiques outardes. Dire qu'il risqua 20 fois sa vie pour s'en emparer, ce n'est que vérité pure. Mais il fit si bien que l'animal alla rejoindre dans son sac les gâteaux de miel. Nous dûmes alors redescendre vers le rivage, car la crête devenait impraticable. Au-dessus de nous, le cratère béant apparaissait comme une large ouverture de puits. De cette place, le ciel se distinguait assez nettement, et je voyais courir des nuages échevelés par le vent d'ouest, qui laissaient traîner jusqu'au sommet de la montagne leurs brumeux haillons. Preuve certaine que ces nuages se tenaient à une hauteur médiocre, car le volcan ne s'élevait pas à plus de 800 pieds. Une demi-heure après le dernier exploit du Canadien, nous avions regagné le rivage intérieur. Ici, la flotte était représentée par de larges tapis de cette criste marine, petite plante ombellifère très bonne à confire, qui porte aussi le nom de perce-pierre, de passe-pierre et de fenouil marin. Conseil en récolta quelques bottes. Quant à la faune, elle comptait par milliers des crustacés de toutes sortes, des homards, des crabes tourteaux, des palémons, des mysis, des faucheurs, des galatées et un nombre prodigieux de coquillages, porcelaines, rochers et patelles. En cet endroit s'ouvrait une magnifique grotte. Mes compagnons et moi nous prîmes plaisir à nous étendre sur son sable fin. Le feu avait poli ses parois émaillées et étincelantes, toutes saupoudrées de la poussière du mica. Ned Land en tâtait les murailles et cherchait à sonder leur épaisseur. Je ne pus m'empêcher de sourire. La conversation porta alors sur ses éternels projets d'évasion, et je crus pouvoir sans trop m'avancer lui donner cette espérance. C'est que le capitaine Nemo n'était descendu au sud que pour renouveler sa provision de sodium. J'espérais donc que, maintenant, il rallierait les côtes de l'Europe et de l'Amérique, ce qui permettrait aux Canadiens de reprendre avec plus de succès sa tentative. Nous étions étendus depuis 1 heure dans cette grotte charmante. La conversation animée au début languissait alors. Une certaine somnolence s'emparait de nous. Comme je ne voyais aucune raison de résister au sommeil, je me laissais aller à un assoupissement profond. Tout à coup, je fus réveillé par la voix de Conseil. « Alerte ! Alerte ! » criait ce digne garçon. « Qu'y a-t-il ? » demandai-je, me soulevant à demi. « L'eau nous gagne !» Je me redressai. La mer se précipitait comme un torrent dans notre retraite, et, décidément, puisque nous n'étions pas des mollusques, il fallait se sauver. En quelques instants, nous fûmes en sûreté sur le sommet de la grotte même. « Que se passe-t-il donc ? » demanda Conseil. « Quel nouveau phénomène ?» « Eh bien, mes amis, répondis-je, c'est la marée. Ce n'est que la marée qui a failli nous surprendre comme le héros de Walter Scott. L'océan se gonfle au dehors, et par une loi toute naturelle d'équilibre, le niveau du lac monte également. Nous en sommes quittes pour un demi-bain. Allons-nous changer au Nautilus. » 3 quarts d'heure plus tard, nous avions achevé notre promenade circulaire, et nous rentrions à bord. Les hommes de l'équipage achevaient en ce moment d'embarquer les provisions de sodium, et le Nautilus aurait pu partir à l'instant. Cependant, le capitaine Nemo ne donna aucun ordre. Voulait-il attendre la nuit et sortir secrètement par son passage sous-marin? Peut-être. Quoi qu'il en soit, le lendemain, le Nautilus ayant quitté son port d'attache,
naviguait au large de toute terre et à quelques mètres au-dessous des flots de l'Atlantique.
Chapitre 11. La mer de Sargasse. La direction du Nautilus ne s'était pas modifiée. Tout espoir de revenir vers les mers européennes devait donc être momentanément rejeté. Le capitaine Nemo maintenait le cap vers le sud. Où nous entraînait-il? Je n'osais l'imaginer. Ce jour-là, le Nautilus traversa une singulière portion de l'océan Atlantique. Personne n'ignore l'existence de ce grand courant d'eau chaude connu sous le nom de Gulf Stream. Après être sorti des canaux de Floride, il se dirige vers le Spitzberg, mais avant de pénétrer dans le golfe du Mexique, vers le 44e degré de latitude nord, ce courant se divise en deux bras. Le principal se porte vers les côtes d'Irlande et de Norvège, tandis que le second fléchit vers le sud à la hauteur des Açores, puis frappant les rivages africains et décrivant un ovale allongé, il revient vers les Antilles. Or, ce second bras, c'est plutôt un collier qu'un bras, entoure de ses anneaux d'eau chaude cette portion de l'océan froide, tranquille, immobile, que l'on appelle la mer de Sargasse, véritable lac en plein Atlantique. Les eaux du grand courant ne mettent pas moins de 3 ans à en faire le tour. La mer de Sargasse, à proprement parler, couvre toute la partie immergée de l'Atlantide. Certains auteurs ont même admis que les nombreuses herbes dont elle est semée sont arrachées aux prairies de cet ancien continent. Il est probable, cependant, que ces herbages, algues et fucus, enlevés aux rivages de l'Europe et de l'Amérique, sont entraînés jusqu'à cette zone par le Gulf Stream. Telle était cette région que le Nautilus visitait en ce moment, une prairie véritable, un tapis semé d'algues, de fucus natants, de raisins du tropique, si épais, si compact, que l'étrave d'un bâtiment ne l'eût pas déchiré sans peine. Aussi, le capitaine Nemo, ne voulant pas engager son hélice dans cette masse herbeuse, se tint-il à quelques mètres de profondeur au-dessous de la surface des flots. Toute cette journée du 22 février se passa dans la mer de Sargasse, où les poissons, amateurs de plantes marines et de crustacés, trouvent une abondante nourriture. Le lendemain, l'océan avait repris son aspect accoutumé. Depuis ce moment, pendant 19 jours, du 23 février au 12 mars, le Nautilus, tenant le milieu de l'Atlantique, nous emporta avec une vitesse constante de 100 lieues par 24 heures. Le capitaine Nemo voulait évidemment accomplir son programme sous-marin, et je ne doutais pas qu'il ne songeât, après avoir doublé le Cap Horn, à revenir vers les mers australes du Pacifique. Ned Land avait donc eu raison de craindre. Dans ces larges mers privées d'îles, il ne fallait plus tenter de quitter le bord. Nul moyen non plus de s'opposer aux volontés du capitaine Nemo. Le seul parti était de se soumettre. Mais ce qu'on ne devait plus attendre de la force ou de la ruse, j'aimais à penser qu'on pourrait l'obtenir par la persuasion. Ce voyage terminé, le capitaine Nemo ne consentirait-il pas à nous rendre la liberté sous serment de ne jamais révéler son existence? Serment d'honneur que nous aurions tenu. Mais il fallait traiter cette délicate question avec le capitaine. Or, serais-je bienvenu à réclamer cette liberté? Lui-même n'avait-il pas déclaré dès le début et d'une façon formelle que le secret de sa vie exigeait notre emprisonnement perpétuel à bord du Nautilus? Mon silence depuis 4 mois ne devait-il pas lui paraître une acceptation tacite de cette situation? Revenir sur ce sujet n'aurait-il pas pour résultat de donner des soupçons qui pourraient nuire à nos projets si quelques circonstances favorables se présentaient plus tard de les reprendre? Toutes ces raisons, je les pesais, je les retournais dans mon esprit, je les soumettais à conseil, qui n'était pas moins embarrassé que moi. En somme, bien que je ne fusse pas facile à décourager, je comprenais que les chances de jamais revoir mes semblables diminuaient de jour en jour,
surtout en ce moment où le capitaine Nemo courait en téméraire vers le sud de l'Atlantique. Pendant les 19 jours que j'ai mentionnés plus haut, aucun incident particulier ne signala notre voyage. Je vis peu le capitaine, il travaillait. Dans la bibliothèque, je trouvais souvent des livres qu'il laissait entr'ouverts, et surtout des livres d'histoire naturelle. Mon ouvrage sur les fonds sous-marins feuilleté par lui était couvert de notes marginales qui contredisaient parfois mes théories et mes systèmes. Mais le capitaine se contentait d'épurer ainsi mon travail, et il était rare qu'il discutât avec moi. Quelquefois j'entendais résonner des sons métalliques de son orgue, dont il jouait avec beaucoup d'expression, mais la nuit seulement, au milieu de la plus secrète obscurité, lorsque le Nautilus s'endormait dans les déserts de l'océan. Jusqu'au 13 mars, notre navigation se continua dans ces conditions. Ce jour-là, le Nautilus fut employé à des expériences de sondage qui m'intéressèrent vivement. Nous avions fait alors près de 13 000 lieues depuis notre départ dans les hautes mers du Pacifique. Le point nous mettait par 45°37' de latitude sud et 37°53' de longitude ouest. C'était ces mêmes parages où le capitaine Denham, de l'Hérald, fila 14 000 mètres de sonde sans trouver le fond. Là aussi, le lieutenant Parker de la frégate américaine Congress n'avait pu atteindre le sol sous-marin par 15 140 mètres. Le capitaine Nemo résolut d'envoyer son Nautilus à la plus extrême profondeur afin de contrôler ses différents sondages. Je me préparais à noter tous les résultats de l'expérience. Les panneaux du salon furent ouverts, et les manœuvres commencèrent pour atteindre ces couches si prodigieusement reculées. On pense bien qu'il ne fut pas question de plonger en remplissant les réservoirs. Peut-être n'eussent-ils pu accroître suffisamment la pesanteur spécifique du Nautilus. D'ailleurs, pour remonter, il aurait fallu chasser cette surcharge d'eau, et les pompes n'auraient pas été assez puissantes pour vaincre la pression extérieure. Le capitaine Nemo résolut d'aller chercher le fond océanique par une diagonale suffisamment allongée, au moyen de ses plans latéraux, qui furent placés sous un angle de 45° avec la ligne d'eau du Nautilus. Puis l'hélice fut portée à son maximum de vitesse, et sa quadruple branche battit les flots avec une indescriptible violence. Sous cette poussée puissante, la coque du Nautilus frémit comme une corde sonore et s'enfonça régulièrement sous les eaux. Le capitaine et moi, postés dans le salon, nous suivions l'aiguille du manomètre qui déviait rapidement. L'instrument indiquait maintenant une profondeur de 6 000 mètres. Notre immersion durait depuis une heure, le Nautilus glissant sur ses plans inclinés s'enfonçait toujours. Les eaux désertes étaient admirablement transparentes et d'une diaphanéité que rien ne saurait peindre. Une heure plus tard, nous étions par 13 000 mètres, 3 lieues et quart environ, et le fond de l'océan ne se laissait pas pressentir. Cependant, par 14 000 mètres, j'aperçus des pics noirâtres qui surgissaient au milieu des eaux. Mais ces sommets pouvaient appartenir à des montagnes hautes comme l'Himalaya ou le Mont Blanc, plus hautes même, et la profondeur de ces abîmes demeurait inévaluable. Le Nautilus descendit plus bas encore, malgré les puissantes pressions qu'il subissait. Je sentais ces tôles trembler sous la jointure de leurs boulons. Ces panneaux s'arquaient. Ses cloisons gémissaient, les vitres du salon semblaient se gondoler sous la pression des eaux, et ce solide appareil eût cédé sans doute si, ainsi que l'avait dit son capitaine, il n'eût été capable de résister comme un bloc plein. En rasant les pentes de ces rochers perdus sous les eaux, j'apercevais encore quelques coquilles, des serpules, des spinorbis vivantes et certains échantillons d'astéries. Mais bientôt ces derniers représentants de la vie animale disparurent, et au-dessous de 3 lieues, le Nautilus dépassa les limites de l'existence sous-marine, comme fait le ballon qui s'élève dans les airs au-dessus des zones respirables. Nous avions atteint une profondeur de 16 000 mètres, 4 lieues, et les flancs du Nautilus supportaient alors une pression de 1600 atmosphères, c'est-à-dire 1600 kilogrammes par chaque centimètre carré de sa surface. « Quelle situation !» m'écriai-je. « Parcourir ces régions profondes où l'homme n'est jamais parvenu. Voyez, capitaine, voyez ces rocs magnifiques, ces grottes inhabitées, ces derniers réceptacles du globe, où la vie n'est plus possible. Quels sites inconnus, et pourquoi faut-il que nous soyons réduits à n'en conserver que le souvenir ?»«
Vous plairait-il, me demanda le capitaine Nemo, d'en rapporter mieux que le souvenir ?»«
Que voulez-vous dire par ces paroles ?»«
Je veux dire que rien n'est plus facile que de prendre une vue photographique de cette région sous-marine. »
Je n'avais pas eu le temps d'exprimer la surprise que me causait cette nouvelle proposition que sur un appel du capitaine Nemo, un objectif était apporté dans le salon. Par les panneaux largement ouverts, le milieu liquide éclairé électriquement se distribuait avec une clarté parfaite. Nulle ombre, nulle dégradation de notre lumière factice. Le soleil n'eût pas été plus favorable à une opération de cette nature. Le Nautilus, sous la poussée de son hélice maîtrisée par l'inclinaison de ses plans, demeurait immobile. L'instrument fut braqué sur ses sites de fond océanique, et en quelques secondes nous avions obtenu un négatif d'une extrême pureté. L'épreuve positive en est également remarquable. On y voit ces roches primordiales qui n'ont jamais connu la lumière des cieux, ces granites inférieurs qui forment la puissante assise du globe, ces grottes profondes évidées par la masse pierreuse, ces profils d'une incomparable netteté et dont le trait terminal se détache en noir, comme s'il était dû au pinceau de certains artistes flamands. Puis, au-delà, un horizon de montagne, une admirable ligne ondulée qui compose les arrière-plans de paysages. Je ne puis décrire cet ensemble de roches lisses, noires, polies, sans une mousse, sans une tache, aux formes étrangement découpées et solidement établies sur ce tapis de sable qui étincelait sous les jets de lumières électriques. Cependant, le capitaine Nemo, après avoir terminé son opération, m'avait dit « Remontons, monsieur le professeur, il ne faut pas abuser de cette situation. » ni exposer trop longtemps le Nautilus à de pareilles pressions. « Remontons, » répondis-je. « Tenez-vous bien. » Je n'avais pas encore eu le temps de comprendre pourquoi le capitaine me faisait cette recommandation quand je fus précipité sur le tapis. Son hélice embrayée sur un signal du capitaine, ses plans dressés verticalement, le Nautilus emporté comme un ballon dans les airs, s'enlevait avec une rapidité foudroyante. Il coupait la masse des eaux avec un frémissement sonore, aucun détail n'était visible, et en 4 minutes, il avait franchi les 4 lieues qui le séparaient de la surface de l'océan, et après avoir émergé comme un poisson volant, il retombait en faisant jaillir les flots à une prodigieuse hauteur.